23h51, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne et nous accueillons maintenant Lily. Bonsoir Lily.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous m'entendez bien ?
Ça va et vous ?
Ça va.
Ça va.
En fait, les choses tournent bizarrement parce que j'avais prévu de parler de ma propre problématique, mais la rentrée des collèges a fait que finalement, je voulais parler de celle de mon fils.
D'accord.
Ça ne vous gêne pas ?
Non, mais vous faites ce que vous voulez, Lily.
C'est un enfant qui a un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité,
oui,
et un syndrome de Gilles de la Tourette.
D'accord.
Donc, et donc, en fait, là, la nouvelle configuration du collège, c'est qu'il n'a plus du tout les mêmes professeurs qu'avant. Il a moins d'heures. Et donc, il doit sans cesse répéter sa problématique. Et moi aussi. Donc, c'est... D'abord, la période de confinement a été vraiment terrible. Pour un enfant hyperactif...
ça a dû être difficile, ouais.
Ça a été terrible. Et puis... Et là, alors, il y a quand même une part de lui qui est contente parce que c'est un petit groupe. Mais voilà, mais c'est qu'il doit remettre le couvert, quoi, à chaque fois. Il faut dire, mais moi, je suis comme si, je suis comme ça. Donc, voilà. Son AESH va arriver d'ici peu, c'est-à-dire son accompagnant.
Son AVS, oui. L'auxiliaire de vie scolaire.
AVS avant, exactement. Mm-hmm. Tout à fait. Donc, et qui connaît bien Noé, donc va remettre un petit peu les profs, je pense, au courant. Mais voilà, non, ouais, du coup, c'était une journée un peu difficile.
Oui, mais bon, pour l'instant, ça ne s'est pas trop mal passé, quand même.
Non, tout à fait. Il a des ressources incroyables. Je suis épatée par ses ressources. Et en plus de ça, il a de l'empathie pour les autres enfants qui sont en difficulté.
Oui.
Et je me dis, mais en fait, c'est génial parce que il n'est pas centré sur sa propre problématique. Il arrive à quand même, appréhender les difficultés des uns, avoir de l'empathie pour les autres, voilà. Donc ça me réjouit.
Très bien. Et donc, Lily, vous vouliez aussi, je crois que Florian m'a dit que vous vouliez évoquer votre enfance aussi, parce que lorsque vous me parlez de votre fils, je sais que vous êtes une femme courageuse, une mère courageuse, mais qui a eu...
Je sais pas. Je fais ce que j'ai pu.
Bah oui, mais c'est déjà pas mal, non? Quand on a un enfant qui a ce type de trouble.
Je sais pas.
C'était éreintant, non hein?
Oui, c'est sidérant.
Sidérant, oui. Ouais. Ça lui a pris quand, en fait
Ces symptômes se sont déclarés alors que moi, je travaillais déjà dans le milieu du handicap avec des enfants sourds.
Oui.
Et tout le monde m'a dit, mais tu fais des formations professionnelles, pardon. Il n'y a pas lieu d'être. Et moi, j'avais déjà tiré les sonnettes d'alarme. Voilà, et on sait très bien que maintenant, pour les dépistages de dyslexie, dysphasie, dyspraxie se font de plus en plus tard. Or, moi, dès la grande section, j'avais pas d'intention conjointe avec mon fils. Même à 6 mois, j'avais pas d'intention conjointe. Ce que j'appelle par attention conjointe, c'est-à-dire quand on parle à un enfant et qu'il vous regarde et qu'il vous écoute sans que vous ayez besoin de le toucher.
Oui.
Ou de tourner son visage vers le vôtre. Donc moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il était sourd, puisque je travaillais avec des enfants sourds.
Oui, oui.
Donc on a fait le dépistage, j'étais absolument pas sourd. Et en fait, c'est révélé au CP, vraiment le diagnostic du trouble de l'attention et du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc les voyages à la Salpêtrière...
Un Gilles de la Tourette prononcé, en fait.
Alors, c'est pas du tout le pendant qu'on connaît le plus souvent, c'est-à-dire répéter des gros mots.
Oui, oui.
Il a pas du tout ça, mais il a des tics et des tocs qui sont très envahissants,
oui,
et qui peuvent gêner sa vie sociale. Mm-hmm. Et puis à la maison, par exemple, pour prendre une douche quand il y a des tocs, c'est très compliqué. Et puis en fait, c'est une maladie qui, on passe d'un tic à un toc, d'un toc à un tic, se déplace. Ouais. Et puis il y a des périodes de pic et des périodes d'amoindrissement. C'est difficile.
Oui, c'est sidérant, comme vous l'avez dit, parce que lorsqu'on voit son enfant avoir des tics comme ça, c'est quelque chose de qui nous décourage en même temps que ça doit être très déstabilisant.
C'est très injuste.
Ouais.
C'est très injuste. Mmh. Et même mon enfant me dit, maman, mais c'est pas juste, quoi. Très tôt, il m'a dit, c'est pas juste, maman.
Vous savez, en fait, Lily, que pour ces Gilles de la Tourette, là, mais surtout pour les TOC, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup avancé, et je ne sais pas si vous êtes au courant.
Des traitements,
Grenoble, traitements, mais en même temps, en fait, je ne sais pas si on peut appeler ça traitement, mais oui, sans doute. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui était vraiment fortement touchée et donc envahie, puisqu'il est question dans ses TOC, d'être envahie par des pensées qui poussent ceux qui souffrent de ces TOC. Oui. On parle d'envahissement de la pensée et
alors,
c'est
attendez,
très,
je prends un crayon,
très curieux.
Et puis je vais noter ce que vous allez me dire par rapport
mais,
à Grenoble.
Mais voilà, en fait, j'avais eu l'occasion de faire la connaissance de cet homme, puisque en fait je devais le filmer pendant 4-5 jours et il avait vraiment un envahissement à 80-85%, vous voyez, c'était très important, et il a subi une opération avec des électrodes mises dans le cerveau par le spécialiste. Mais on va faire une pause, Lily, et puis je vais vous expliquer tout ça après l'info, d'accord? On se retrouve tout de suite. À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Minuit passée de 6 minutes, vous êtes sur votre radio, sur Europe 1. Et c'est votre libre antenne qui vous accompagne, chers amis, jusqu'à 1h du matin en direct du studio Coluche. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable moment à l'écoute des témoignages que vous entendez ce soir. Et nous sommes avec Lily qui nous parle de son garçon de 6 ans qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette en même temps qu'il a des TOC. Et nous parlions, Lily, donc de soins, en tout cas d'un traitement qui marche bien, en fait. Je vous disais qu'à Grenoble, c'était vraiment là-bas que se trouvait le grand spécialiste, je crois même mondial, de ces TOC. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher.
Mon fils a 12 ans actuellement. Il est en
Et il a 12 ans, 12 ans, d'accord.
Je me suis mal exprimée certainement. Mais il est suivi à la Salpêtrière, justement, par le pôle du syndrome de Gilles de la Tourette.
D'accord, d'accord.
Certaines personnes connues.
Oui.
Enfin bon, bref. Mais je veux bien. Je prends tout, moi.
Oui, parce que, en fait, comme je vous dis, je me souviens de cet homme, Eric. Oui. Je me souviens très bien de lui, qui vraiment souffrait de ces fameux envahissements de la pensée, de l'esprit. Et à l'époque, c'était il y a, je pense, 5 ans. Que nous avons tourné ensemble, et il avait fait partie d'un protocole européen où il y avait une vingtaine ou une trentaine de patients qui avaient pu bénéficier de ce protocole qui était à base d'électrodes, en fait, qu'on introduisait dans le cerveau.
Oui.
J'avais rencontré le professeur qui opérait, donc qui était à la tête de ce protocole européen, et parce que je ne savais pas comment marcher le cerveau, en fait. Et lorsque on vous explique comment, alors d'une manière un peu simpliste, mais comment, c'est de l'électricité qui tourne en permanence et que, voilà, qui anime. Et donc, du coup, ce système d'électrodes, je me rappelle, il y avait 4 électrodes posées, donc, à travers la boîte crânienne, à des endroits précis du cerveau. Et donc, avec une petite boîte qui était reliée donc à ces électrodes, et cette petite boîte était donc sous la peau, au niveau du pectoral. Tous les 2 mois ou 3 mois, ce garçon, Eric, se rendait à Grenoble pour ajuster les fréquences, et ça marchait. Ça avait vraiment très, très bien marché.
Du nom du pôle de Grenoble.
Non, mais alors, je vous invite à regarder sur YouTube, en fait, sur la chaîne. Vous savez qu'il y a une chaîne dans les yeux d'Olivier. C'est le film qui s'appelle Je suis mon pire ennemi. Voilà. Il est dans ce film. Vous pouvez regarder le témoignage d'Eric. Et vous verrez, en fait, à un moment, il y a toute une partie qui est consacrée à ce pôle à Grenoble et à cette opération, puisque on avait des images même de cette opération, comment il avait été accompagné, et qui explique très bien. C'est vraiment énorme, parce que vraiment, je me souviens qu'il souffrait énormément de ces tocs. Il nous racontait des tocs incroyables, parce que quand vous... Voilà, ça peut être rigolo comme ça, parce que je me souviens, à l'époque, il y avait toujours des reportages sur les tocs, rigoler les gens. Les personnes qui souffrent de ça, c'est...
Qui en souffrent.
Oui, c'est horrible. Et donc, du coup, je pense en tout cas... Mais peut-être parlez-en à la Salpêtrière, ils sont peut-être au courant. Votre garçon est trop jeune, peut-être encore pour type de traitement.
En fait, on a essayé la Ritaline et la Bigify.
Oui, mais ça, c'est différent. Ce sont des médicaments.
Alors, la Ritaline oui, tout à fait. Oui, c'est différent, tout à fait.
C'est vraiment un système d'électrodes qui envoie de l'électricité, en fait. Et donc, du coup, on n'est pas sur la Ritaline, par exemple, qui a des effets secondaires, qui est très efficace pour tout un tas de choses, d'ailleurs. C'est quand même une drogue, enfin, c'est un médicament.
Oui, il y a même des gens qui essayent de s'en procurer pour tenir des séminaires pendant 3 jours, quand même.
Je ne savais pas, vous voyez. Mais donc, du coup, ça vaut le coup quand même d'y jeter un œil, parce que ça marche, ça marche vraiment. Je pense que vraiment, ça a réduit considérablement ces envahissements. Il disait que c'était à peu près passé à 12%. Vous voyez, donc ça avait complètement changé sa vie. Là. Complètement.
Ok, d'accord.
Vous vouliez me parler de votre enfance aussi, je crois.
Oui, alors je me sens un peu honteuse parce que la journée d'aujourd'hui m'a rappelé les souffrances de mon fils. Mais quand même, je me dis qu'il y a peut-être lien de cause à effet, je ne sais pas. Moi, je suis née en 1974.
Oui.
Après, une petite fille qui est née en 1968, dont mes parents ont eu 2 garçons. Donc, ils attendaient une petite fille avec tout ce qu'on peut imaginer. Ils avaient déjà imaginé, pour cette petite fille, ils l'avaient imaginé. Et en fait, elle n'a pas vécu plus d'une journée.
Vous êtes née 6 ans plus tard ?
C'est ça, oui. Parce que maman a eu du mal à avoir un enfant.
Oui.
Je suis née 6 ans plus tard exactement. Et en fait, j'ai senti très très tôt. Alors quand on m'a donné mon prénom, en fait, je disais à tout le monde, mais je m'appelle Lily, mais je suis un garçon. Parce que je sentais qu'il y avait un truc qui ne m'appartenait pas, en fait. Il y avait quelque chose qui n'était pas de mon ressort, en fait. Oui, il y avait une histoire que je portais, mais qui n'était pas la mienne. Et puis, à l'âge de 17 ans, l'année du bac, en fouillant dans le... Je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai fouillé dans le livret de famille. Et là, j'ai trouvé. J'ai trouvé le prénom de cette petite fille, sa naissance, enfin, tout ce qui en découlait, quoi. Ça a été très dur pour moi parce que j'ai senti que depuis des années où j'étais un garçon manqué, mes frangins m'appelaient Mowgli, quoi.
Comment
pour vous dire. Mes frangins m'appelaient Mowgli.
Mowgli, d'accord.
Oui, comme...
Le livre de la jungle.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. J'étais toujours perchée, mal coiffée. Enfin bon, je ne correspondais pas à l'image que mon papa s'attendait...
à avoir d'une petite fille.
Oui. Mm-hmm. D'ailleurs, il m'a dit plusieurs fois, mais pourquoi tu ne portes pas des nattes et des jupes et des ballerines comme les autres petites filles? Mais moi, je pense que... très tôt, j'ai senti que cette histoire, c'était pas la mienne, que moi j'avais autre chose à vivre. Enfin, oui. je sais pas comment expliquer ça. J'ai senti très très tôt qu'il y avait un transfert qui se faisait, mais c'était pas moi. En fait, ils avaient transposé une histoire malheureuse que moi j'étais quand même attendue, vraiment vraiment attendue, mais attendue comme une petite. Et moi j'ai senti que c'était pas mon histoire, que je sais pas comment vous l'expliquer.
Mais vous l'expliquez là, vous l'expliquez, vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose qu'on vous cachait quelque part et
qu'on me cachait et qui ne m'appartenait pas et ouais. Plus j'essayais de faire bien. Et moi, ça allait. Et ça a duré jusqu'à des années, jusqu'à ma quarantaine.
Et quel impact, justement, cela a eu sur votre vie de femme?
Très compliqué.
C'est-à-dire
Très compliqué. D'abord, j'ai été un gros bébé pendant très longtemps. C'est-à-dire que j'ai fait des études, j'étais sage comme une image. Je n'avais pas de petit copain, rien, enfin quoi que ce soit. Et puis, j'ai eu l'occasion de trouver un travail en Guadeloupe. Et là, j'ai fait ma crise d'ado à 25 ans. C'est un peu gênant. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, et dans ma vie de couple, c'est la méfiance. C'est vraiment la méfiance. Est-ce que c'est bien moi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre?
C'est-à-dire qu'en en fait.
En même temps, j'ai envie de plaire parce que j'ai toujours eu envie de plaire depuis que je suis née. J'ai envie de plaire à mon papa, à ma maman, à mes frangins. Parce que je savais que mes frères aussi avaient vécu ce décès de cette petite fille. Ouais. Donc, même pour eux, ça a été difficile. Mm-hmm. Oui. J'arrivais pas à avoir des relations apaisées. C'était des relations. Voilà. Après, j'en ai eu une très satisfaisante en 2017.
Oui.
Mais la personne que je côtoyais, en fait, buvait. Donc, ça a été encore un casse-tête. Et on s'est séparés, en fait. Parce que
vous vous êtes séparés il y a combien de temps, maintenant?
Oh, il y a même pas 6 mois.
Ah oui, donc c'est tout frais, en fait.
Oui.
Et pourquoi est-ce que c'est vous qui avez décidé
Parce qu'en fait, il buvait en cachette. En fait, il travaille sur des bateaux. Oui. Et à un moment donné, le Qatar s'est replié sur lui-même. Il travaillait beaucoup avec le Qatar pour une grosse compagnie. Mmh. Et le Qatar s'est replié sur lui-même à un moment donné. Donc, il n'envoyait plus leurs employés au Qatar de peur qu'ils ne puissent pas revenir.
D'accord.
Ils prennent leur
passeport.
Voilà. Oh, exactement. Donc du coup, il s'est mis en télétravail et il s'est mis à boire. Donc je rentrais le midi de l'école pour manger avec lui. Je voyais qu'il avait bu et puis je voyais qu'il devenait colérique, qu'il devenait possessif, qu'il devenait jaloux, très très jaloux. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute... Et je voyais que, en fait, ces conflits nuisaient au bien-être de mon enfant.
Oui.
Donc, j'ai dit, non, on va s'arrêter là. Et comme il habitait chez moi, je lui ai dit, tu pars.
Et voilà. Comment ça se passe depuis? Vous regrettez cette décision ou vous regrettez...
Oui, j'ai des moments de parce qu'on a eu une complicité rare, parce que moi j'étais vraiment un gros bébé très très tard, quoi, jusqu'à 25 ans, avec vraiment, oui, la tête dans le guidon, dans les études, très sérieuse au travail, etc. Et que ce qu'on fait, les gens à 19 ou 20 ans, ou 17 ans, voire 16 ans. Donc. Et je me suis vraiment sentie femme avec lui, c'est-à-dire que quand il me regardait, j'avais vraiment l'impression de, ouais, d'être une femme.
Oui,
parce que moi,
oui,
qui avais toujours dit que j'étais Mowgli et que j'étais, je m'appelais Lily, mais j'étais un garçon, je me suis vraiment sentie femme au travers de ses yeux. Et il l'a été. Et il a été très bienveillant avec mon enfant, mais sauf que, bon, il a eu des choses, ce sont des choses qui arrivent. Je pense que.
Il ne voulait pas se soigner, il n'acceptait pas en fait qu'il avait un problème avec l'alcool.
Si, il a essayé, mais ça collait pas avec son télétravail. Enfin bon, c'était très compliqué. Et je pense que, je sais pas, il y a une souffrance en lui, chez lui.
Ouais, c'est sûr.
Que je ne connais pas et dont il ne
voulait pas parler. Non. Et vous dites qu'il était sur des bateaux, c'est-à-dire il était marine marchande ou
Tous les bateaux qui transportent du gaz. Enfin, il travaillait total. Voilà pour.
D'accord.
Donc en fait.
Oui, donc il gagnait bien sa vie quand même en plus.
Très bien sa vie.
Ouais.
Oui.
Et malgré ça, il n'arrivait pas à sortir de ça, de l'alcool.
Non. Non, alors quand il était en mer, nickel, parce que de toute façon, ils avaient des tests tous les jours.
Oui.
Avant de monter déjà, en fait, c'est un petit bateau qui vous amène sur le grand bateau avec une échelle. Donc, il faut déjà pouvoir monter l'échelle. Donc, avant de monter, ils vous testent. Donc, bon, il était toujours clean. Mais dès qu'il était à l'hôtel, entre deux trucs, c'était parti. Et puis.
C'est dommage. Et puis, quel dommage.
Oui, oui, quel dommage, parce que c'est un. C'est quelqu'un, même vis-à-vis de mon fils, qui a été très, très bienveillant.
Oui. Et Dieu sait si c'est important qu'un homme.
Bien sûr.
Voilà, en plus, quand c'est pas son enfant, supporte et soit bienveillant.
Bah oui, parce qu'on ne fait pas pioche-pioche.
Oui, oui.
Donc.
Et vous pensez que c'est fini, ça, ou. Il est où maintenant? Il ne vous donne plus de nouvelles?
Ici, là, j'ai eu des nouvelles là, très récemment, en fait, parce qu'on avait un chien en commun.
Ouais.
C'est un peu con, comme. Débile, comme.
Ça permet de maintenir le lien, hein, ceci dit.
Du coup, et Noé, mon fils, voulait avoir des nouvelles du chien, donc je lui ai dit, est-ce que tu peux m'envoyer une photo, dis-moi comment il va. Et je ne pensais pas qu'il allait me répondre, il m'a répondu. Et il n'a pas repris le travail, par contre, il est ultra suivi, contrairement à moi. Il voit deux psys, une psy pour l'addictologie, une psy pour les problèmes autres,
oui.
Et plus un addictologue spécifique à l'AMPA.
C'est lui qui vous a raconté tout ça, donc?
Oui, tout à fait. Oui.
Donc c'est peut-être pas pour rien qu'il vous a raconté tout ça?
Non, je pense que c'était un appel. Enfin, c'était une façon de me dire, tu vois, je me reprends en main.
Mais oui. Donc à réfléchir quand même, Lily.
Oui, à réfléchir.
Ouais.
Mais j'ai tellement peur.
Je comprends.
Je suis une trouillarde née.
Oui, mais il faut de temps en temps prendre quelques risques. Si, comme vous dites, c'est le premier homme avec qui vous vous êtes sentie femme lorsqu'il vous regardait, c'est rare, hein, vous le savez.
C'est une révélation de femme, hein, mais vraiment, je veux dire, je ne peux pas être impudique, hein, mais dans tous les. À tout point de vue. Voilà.
Alors, c'est à réfléchir vraiment.
Oui.
Parce que là, voilà, il va être déconfiné bientôt. Peut-être il va peut-être reprendre le chemin de la mer. Peut-être retrouver un équilibre.
Là, il est en train de faire une VAE parce que il veut faire une rupture conventionnelle de contrat avec la boîte dans laquelle il travaille. Il est en train de faire une VAE, donc il est sur le bon chemin. Hein, il est en route, quoi. Oui.
Donc du coup, peut-être, bon, vous dites quoi? Vous dites que vous allez peut-être faire quoi par rapport à cet homme?
Mais moi, j'ai peur que, en fait, il reboive et puis que...
Mmh. Oui, mais tout ça se discute, peut-être progressivement. Enfin, oui. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je me permets de vous le dire, mais ça se retente quand même. Ça m'a l'air d'être quelqu'un de bien.
Oui.
Et quand quelqu'un de bien a une addiction comme celle-là, qui, on le sait, hein, l'alcool peut rendre, bête. Quelqu'un
ça
qui
va
est...
être très vite la limite, elle est la limite.
Oui,
elle
ah oui ça peut être deux verres. En fait. Oui.
Et ça va très très vite. Et en fait, les gens ont du mal à comprendre cette maladie qui fonctionne d'un point de vue, comment dire, chimique hein, dans le cerveau. Je veux dire, c'est au-delà de... Allô ?
Oui, je suis là.
Oui, excusez-moi. Oui, ça va très très vite. On a un terrain addictif, on n'en a pas un. Si on en a un, ça peut être l'alcool, ça peut être autre chose. Et puis, ça va très très vite parce que oui. Je me suis renseignée, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et en fait, oui.
C'est de toute façon une faille et de toute façon une manière de...
Oui, de se masquer,
vous savez, de se masquer la réalité.
Ça aurait pu être la bouffe, ça aurait pu être, je ne sais pas moi, autre chose de pire, une drogue dure ou je ne sais quoi.
Je crois, vous savez, que l'alcool, c'est quelque chose de terrible. Parce que...
En vérité, pour être honnête avec vous, je pense que c'est une drogue dure aussi.
Mais bien sûr, c'est une drogue dure. C'est pour ça que je vous dis que c'est terrible. Parce que, et en plus, une drogue dure en vente...
En vente chez vous. Libre, mais donc oui. c'est facile. Ouais. C'est facile.
Du coup, c'est pour ça que je vous dis que... Voilà. Je ne sais pas, je vous dis ça un peu instinctivement en plus. C'est que je vous écoute depuis tout à l'heure et je me dis, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme et de son fils et cet homme qui avait une addiction et qui a cette addiction. Parce que quand on est dans l'addiction, on l'a à vie. Il faut se méfier à vie.
Je pense.
Parce qu'on a une souffrance comme une plaie. Hein, une plaie qui peut se rouvrir à n'importe quel moment de nos vies. Et donc, du coup, faire très attention. En tout cas, ne jamais être dans la certitude que ça y est, c'est fini. Donc, et s'il fait tous ses efforts, là, c'est bien.
Je crois que ce ne sera jamais fini. Enfin, perso.
Mais ça peut, Lily. Ça peut s'apaiser, ça peut... avec la maturité et puis la compréhension de savoir quelle est cette souffrance, en connaître les origines, l'accepter.
Oui, j'en connais les origines.
L'accepter aussi, vous voyez, accepter. S'il accepte, il y a souvent une histoire aussi de... J'ai tellement croisé de gens qui essayaient d'arrêter tout seul, vous voyez, qui pensaient qu'ils pouvaient combattre une addiction seul. Ouais. Alors que c'est impossible de s'en sortir seul d'une addiction. Non. Alors, il y en a, bien évidemment.
Surtout d'une addiction comme celle-là, où c'est en vente libre. Je veux dire, il n'y a pas besoin de dépenser 50 000 euros pour avoir...
On peut être alcoolique avec 10 euros en poche.
Je fais le parallèle, parce que j'ai travaillé avec des jeunes, et je voyais bien...
Mais oui. Ouais.
Le puissant fond que c'était la cocaïne, par exemple. Voilà, et je me disais,
C'est pour ça que je vous dis que vous avez raison de dire que l'alcool, c'est ce que je disais tout à l'heure à Sarah. Non, pas à Sarah. J'avais une...
l'interlocutrice.
Oui, l'interlocutrice que j'avais tout à l'heure, mais je vais retrouver son prénom parce que je l'ai eu en premier. Et comme j'ai un souci avec les prénoms, mais c'est ce que je lui disais, Carole, qui avait vaincu l'alcoolisme pour l'instant. En tout cas, elle était sobre et depuis septembre, elle n'avait pas bu d'alcool. Et c'est formidable.
Super courageuse,
Et donc, du coup, voilà, quand... on entend que quelqu'un se soigne, en tout cas qu'il est rentré dans un... il marche sur le chemin de la sobriété et qu'on sait que c'est dur parce que justement cette drogue-là, dure, elle est en vente tout en bas de n'importe quel foyer, eh bien, arrêter, c'est quand même un sacré... je peux vous dire, c'est un sacré truc.
Et Et de plus, l'entourage familial ne comprend très souvent pas un entourage proche, hein, je veux dire. Là, il y a, parce que je l'ai vu hein, par rapport à sa famille, hein, comment ça a été. Hein, il a été rejeté.
Mais la famille, elle est souvent à l'origine aussi. Hein, quand vous cherchez et quand vous.
Oh bah oui, hein, non, mais
quand
c'est
vous,
sûr.
Vous cherchez un petit peu.
Quand on gratte un peu.
Ouais, quand on gratte un peu, je cherchais le mot, exactement.
Ouais.
Bah écoutez,
oui.
Lily, en tout cas. Voilà, ça se retente, on ne sait jamais. J'espère que vous me rappellerez peut-être dans quelques semaines ou quelques mois en me disant « Tiens, vous aviez raison. »
Oui, je voilà. Des nouvelles.
Oui, avec grand plaisir. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et puis,
Moi aussi, alors.
Eh bien, super. vous me rappelez quand vous voulez, d'accord ?
Entendu. Je vous souhaite une bonne soirée.
Moi
Merci
aussi,
de m'avoir
Lily.
Écouté.
Merci, je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.